Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen, conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Des sciences, des lettres, de l'art. À Agen.
Bonjour à tous, Pierre Simon. Nous débutons l'année radiophonique de l'Académie. Quand je dis l'année, ben oui, c'est les nouvelles émissions après les vacances. Alors, nous avons aujourd'hui trois sujets à aborder. La séance de septembre et d'octobre dont on parlera. Une séance sur le chapitre de Saint-Étienne. Et les travaux de l'Université de Bordeaux sur l'habitat d'Agen. Alors, tout d'abord, nous allons commencer, Pierre Simon. Enfin, c'est vous qui allez commencer. Abordons les activités de septembre et d'octobre. Alors, commençons par la première partie, séance académique collectif allumette médaillon. Quelle introduction !
Alors, d'abord, bonjour, merci de m'avoir réinvité, d'avoir réinvité l'Académie.
Vous êtes ici chez vous, monsieur le secrétaire général.
Merci. Et donc, effectivement, on commence fort. Parce que le collectif Allumette est un collectif de peintres qui a travaillé beaucoup dans les années 80 et qui avait une maison à Madaillan. Et en fait, c'est la visite de la maison qui veille à lier la nature, l'humain, et l'art, hein, c'est cette visite de la maison qui nous servira de fil directeur pour découvrir les productions de ce groupe. L'Académie entend aussi rappeler qu'elle a une dimension art, hein, dans son objet et qu'il faut qu'on puisse aussi s'ouvrir à un art plus récent peut-être que l'art strictement académique, comme on dit habituellement.
N'oublions pas que l'Académie est à l'initiative de la création du musée d'Agen. Je dis ça
voilà.
En passant.
Oui, voilà, et que c'est l'Académie des sciences, arts et lettres.
Voilà.
Ça, c'est donc l'activité en mois de septembre, la séance de septembre. Et aussitôt après, le samedi 17, ont lieu les journées européennes du patrimoine.
Voilà.
Mais nous, on ne sera ouvert que le samedi après-midi.
Voilà, c'est donc le samedi après-midi 17 septembre.
Voilà.
Alors, ces journées du patrimoine, vous ouvrez donc l'Académie. Commentaires, visites, sujets ?
Alors, les trois, mon capitaine. D'abord, il y aura les administrateurs qui seront présents pour pouvoir tout simplement discuter avec les gens qui viennent voir les locaux et expliquer les rapports entre les locaux et nos activités. Deux, nous aurons une intervention d'un thème qui peut être un peu surprenant, hein, qui est l'alcool et l'histoire, par Michel Craplet, qui est psychiatre et alcoologue, et il a une approche tout à fait surprenante, hein, sur la place de l'alcool dans l'histoire.
C'est aussi l'après-midi ?
Et c'est aussi l'après-midi.
En quelle partie de l'après-midi alors ?
À 15h, à partir 15 heures. De 15h.
Voilà.
Et toujours dans l'après-midi, on aura une approche sur le patrimoine fruitier aquitain par Evelyne Leterme, qui est l'ancienne directrice du Conservatoire Végétal de Montesquieu.
Tout à fait, oui.
Hein, et donc, cet après-midi sera du concentré entre un contact avec les administrateurs, un exposé de Michel Craplet et un certain nombre de panneaux permettant de voir le patrimoine fruitier aquitain. Hein, nous espérons, par cette diversité, pouvoir répondre aux attentes d'un public large.
Alors, il y a aussi un autre point, c'est la journée culturelle du 24 septembre au Mas d'Agenais.
Alors, le Mas, à l'heure actuelle, connaît une célébrité
considérable,
importante, avec le tableau de Rembrandt, qui, effectivement, à lui seul, mérite la visite. surtout qu'il a été retrouvé de haute lutte.
Oui, et alors, réinstallé, protégé et remis en place, d'ailleurs, beaucoup mieux qu'il était avant, on est bien d'accord.
Incontestablement, voilà. Et donc, on peut même dire célébré.
Voilà.
Bon, ceci étant, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt.
Mais le chêne est joli quand même.
Le chêne est joli. Mais on va donc proposer des exposés concernant la découverte de ce que c'était que la forêt du Mas,
ouais. Hein,
qui était extrêmement importante jusqu'au Moyen-Âge. Et d'autre part, des exposés sur l'ensemble du patrimoine du Mas. N'oublions pas que le Mas a une église collégiale qui est absolument magnifique et qui, elle aussi, a bénéficié d'une réfection quasiment complète, hein, et qui offre un écrin absolument extraordinaire pour le tableau du Mas.
Et ça se passe où, ces journées culturelles du Mas?
Alors, ça se passe à la salle des fêtes, mais attention, c'est sur inscription et réservation préalable. Hein, de façon, et ça vous pouvez trouver sur le site de l'Académie, hein, les éléments qui vous permettent de vous inscrire, ou alors passer ou téléphoner à l'Académie, hein, pour avoir les modalités d'inscription.
Alors, 24 septembre, journée culturelle au Mas, inscription. Et venez nombreux après avoir réservé.
Voilà, hein, et c'est toute la journée, c'est-à-dire que le rendez-vous a lieu à 10h au Mas, hein, et ça se terminera vers 17h, hein, sachant que la fin, eh bien, ce sera aussi une évocation des gens des environs, hein, de Val-de-Garonne, qui sont partis au Canada, hein, donc des pionniers des pionniers marmandais, hein, qui sont partis au Canada, comme nous l'avions déjà fait d'ailleurs à Gonto, mais il y a déjà quelques années.
Et ils sont nombreux, c'est suite à la Garonne et à tous ces marins de Garonne qui sont devenus marins, et puis ensuite, j'allais dire, qui ont découvert soldats et autres familles émigrées en Nouvelle-France.
Tout à fait, hein, il avait qu'à laisser descendre le courant du fleuve.
De la Garonne au Saint-Laurent.
Voilà, avec entre-temps quelques aventures.
Quelques aventures. Bien, maintenant octobre, avec un point essentiel, c'est la préparation et la tenue du congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest. Alors là, c'est un grand moment dans la Genêt.
Alors, c'est un grand moment dans la Genêt qui se déroulera au Conseil départemental, donc le week-end des 22 et 23 octobre, autour d'un thème qui, au départ, était un peu surprenant, entre imaginaire et matérialité, le fait urbain en Aquitaine, de l'Antiquité à nos jours. Dans la mesure où ce qui nous intéresse, c'est de montrer que la ville est une réalité, je dirais,
tangible.
Basique, tangible, hein,
oui.
Pour habiter,
oui.
pour travailler, mais qu'en même temps, elle est aussi l'objet de toutes de projections, hein, alors souvent qui ont été le fait d'architectes, d'urbanistes, voire même de politiques, hein, puisque on essaiera de montrer comment depuis l'Antiquité, y compris la vue qu'on a aujourd'hui de la cité gallo-romaine, est aussi une vue en partie imaginée par nous, hommes du XXIe siècle et femmes. Du XXIe siècle, mais on montrera aussi que, par exemple, pour Agen, un ingénieur comme Lomé est quelqu'un qui avait une vision d'un Agen assez différent et qu'il a dessiné, parce que c'était un dessinateur remarquable.
Remarquable.
Et donc, là, on aura en particulier un exposé d'Adrien Enfedac et Francis Stéphanus, hein, sur Lomé, dessin, avec un I, et dessin
avec EIN
pour Agen.
Pour Agen,
voilà. Ouais. Donc pour montrer l'idée que Lomé pouvait se faire de l'avenir d'Agen.
C'est-à-dire qu'il a relevé, il est l'homme de transition entre l'Agen du Moyen-Âge et l'Agen moderne, en quelque sorte. Il a photographié à un moment donné, par ses dessins, photographié étant une expression, il a en quelque sorte figé, et il nous apprend par ses dessins, cette transition extraordinaire de la ville.
Et non seulement il nous apprend la transition, mais il façonne la transition. Enfin, ou du moins, il essaye
il
de
essaye,
façonner.
Voilà. Alors, donc la date en octobre.
Donc ça, c'est le week-end du 22-23 octobre.
Et ça se tiendra
au conseil départemental. Là, il faut contacter la société académique pour pouvoir participer. Enfin, ouais. Avoir d'abord le programme complet et après pour pouvoir participer.
On en reparlera, bien entendu, à notre émission du mois d'octobre,
voilà,
je suppose.
Mmh.
Alors, voilà une première partie d'information générale très complète. On ne peut remercier que l'Académie pour ses activités, féliciter la présidente et, j'allais dire, tout le conseil et son secrétaire général pour l'animation de cette rentrée, c'est très, très important. Maintenant, on va avoir une petite page musicale, on va écouter le Festin d'Ésope, il faut se restaurer, il n'y a pas que la culture, le Festin d'Ésope, interprété sur une musique du compositeur français Alcan. Vous êtes toujours à suivre les chroniques de l'Académie d'Agen, rendez-vous mensuel. Radio Bulle 93.6, c'est l'actualité culturelle de l'Académie, dont la radio ne se fait que, je vais dire, l'écho. On transmet la voix de l'Académie. Nous ne sommes que les transmetteurs. Pierre Simon, on aborde maintenant la deuxième partie, après cette musique d'Alcan. Sur la prochaine séance, sur un thème tout à fait intéressant et nouveau, mais nouveau parce que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas reparlé en quelque sorte. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus physiquement. Et donc il faut faire appel à la mémoire, à l'imagination. C'est une très belle conférence dont on va évidemment réserver l'annonce par l'auteur lui-même sur le chapitre de la cathédrale de Saint-Étienne. Alors qu'en est-il, Pierre Simon ?
Alors cette présentation, cette communication a été faite à l'Académie au début du mois de juin et elle s'est appuyée sur un document de 1715, qui est un état des procès du chapitre contre, alors je dirais, le monde entier, aussi bien son propre évêque que le chapitre Saint-Caprais, son voisin, et que tous les innombrables personnes qui étaient liées au chapitre. Et cet exposé a essayé de s'appuyer sur quatre points. Le premier, c'est un petit rappel sur le rôle du chapitre depuis l'époque carolingienne. Le deuxième, c'est sur la splendeur du chapitre au Moyen-Âge, et
oui.
Même surtout XIIe et XIIIe siècle.
Oui, on va rappeler quand même que c'était la cathédrale, cœur de ville.
Voilà. Et le troisième, c'est les difficultés, les très grosses difficultés du XVIe. Et après, c'est la tristesse d'une fin au XVIIe et XVIIIe siècle.
Voilà.
Alors, donc, Jean-Michel le rappelle, le chapitre cathédrale Saint-Étienne, c'est bien lié et lié à la cathédrale, donc lié à l'évêque, mais qui, faut-il le rappeler, sous l'Ancien Régime, c'était Saint-Étienne qui a été rasé sous la Révolution, hein, qui aujourd'hui est le marché couvert.
Le marché parking.
L'emplacement, oui. Oui, bon, sans commentaire.
Mais il reste quand même dans les fondations.
Alors voilà,
on a retrouvé.
Quand on a construit ce bâtiment, voilà. On a retrouvé un certain nombre de traces de l'antériorité. Non seulement de la cathédrale qui, elle, avait été construite à partir du début du XIVe siècle, mais même de la cathédrale qui l'a précédée, cathédrale romane. Alors, donc, le chapitre, eh bien, c'était l'ensemble de ce qu'on peut appeler la haute administration de l'évêché autour de l'évêque. Hein, et donc, la fonction du chapitre, eh bien, c'était de conseiller et d'administrer avec l'évêque.
Voilà.
À l'époque carolingienne, on a voulu aller plus loin et faire de ce chapitre un groupe, une équipe, et donc imposer la vie commune aux chanoines, le regroupement dans un quartier qu'on a appelé le quartier canonial. Et donc, la première des choses, c'est que ces hommes, parce qu'il n'y avait que des hommes ce coup-ci et pas de femmes, ont vraiment eu une vie qu'on a appelée régulière. Deuxième point, au Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, on voit un effondrement progressif de cette vie régulière, alors que le chapitre est au sommet de sa puissance. C'est le chapitre qui, théoriquement, qui élit formellement l'évêque au IIe siècle.
C'est sa fonction de
gestion. C'est sa fonction de gestion. C'est une fonction qui subit souvent des pressions, si l'on peut dire.
Ouais,
mais enfin, qui lui donne quand même un grand pouvoir. Et donc, au début du XIIIe siècle, dans le courant du XIIIe siècle, il perd progressivement cette fonction d'élection. Il perd aussi la régularité, donc on parle à ce moment-là d'un chapitre séculier, c'est-à-dire que les membres du chapitre ne sont plus astreints à la vie commune, et beaucoup de chanoines ont beaucoup d'autres activités que l'encadrement de l'évêque. Et donc, on sait à peu près que la moitié des chanoines au début du XIVe siècle ont des activités autres, et souvent d'ailleurs sont plus ou moins ce que l'on peut appeler des cumulards, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la prébende, ça ne servait que finalement de pension. Alors, inutile de dire que quand il y a eu des grandes difficultés au XVIe siècle, tout ceci s'est assez, sinon effondré, du moins, ça a beaucoup perdu
de sa puissance,
de son honneur surtout, on peut dire. Et donc, au XVIe siècle, en plus, la cathédrale a été pillée par les protestants.
Il y a la guerre de religion.
Les guerres de religion, voilà. Mais qui sont aussi qui ont aussi été provoquées par cette attitude des chanoines, d'affaiblissement. Des chanoines qui étaient souvent plus préoccupés uniquement par les rentes la vie religieuse. Et donc là, on a le début du quatrième point qui est une tristesse au XVIIe et XVIIIe siècle.
Du déchirement des guerres de religion qui sont finalement une guerre de pouvoir et une guerre civile, en quelque sorte.
Avec en plus, pour les chanoines, le souci constant de récupérer leurs droits, de récupérer leurs rentes. Et donc en fait, on a une vision des chanoines qui est complètement déformée par ces archives des XVIIe et XVIIIe siècles, où en fait on les voit constamment à se quereller, hein, ayant complètement perdu de vue toute la grandeur et l'importance du rôle qui était le leur au Moyen-Âge et qu'il importe de pouvoir remettre sur le devant de scène, hein, pour ne pas se laisser gagner par, je dirais, un pessimisme intégral, hein, qui pourrait être celui qui lit uniquement les documents du XVIIe et du XVIIIe siècle du chapitre.
Alors, à quel moment Saint-Étienne commence, j'allais dire, sur le plan architectural, à poser questions et problèmes dans l'édifice?
Ah, si je réponds tout le temps, c'est sans doute un peu rapide. On a, dans les archives du chapitre, beaucoup de discussions financières avec l'évêque et les consuls sur la fin de la construction et l'aménagement de la cathédrale à partir de la deuxième moitié du XVe siècle.
Voilà, ouais.
Et on se querelle encore au XVIIe siècle sur le financement des voûtes.
Hein. Oui, qui commence à poser problème.
Voilà, d'ailleurs. Exactement. Hein, et bon, donc, sans doute que cette institution qui avait perdu une partie de sa puissance financière et son autorité morale, finalement, était très mal placée pour assurer la gestion et le financement de la cathédrale.
Alors donc, la cathédrale se trouve en grande difficulté financière par rapport aux frais de consolidation, de restauration, mais au-delà de la restauration même. Et donc, il va bien falloir un jour ou l'autre se résoudre à changer de lieu. Et peut-être même qu'en passant par là, Napoléon Ier a fait quelques reproches à l'évêque de l'époque en disant « Mais qu'est-ce que c'est que votre cathédrale en mauvais état ?»
Voilà. Alors, il faut quand même dire que dès le XVIIIe siècle, l'évêque avait trouvé que l'évêché d'Agen, le vieil évêché à côté de la cathédrale, non seulement faisait miteux, mais même s'est effondré en partie.
Il était juste derrière, pour nos auditeurs, à côté de la rue au blé, derrière le marché couvert actuellement.
Voilà. Et il y avait là un ensemble très, très homogène entre la cathédrale, l'évêché et le quartier canonial.
Oui, hein. Puis le cloître qui prolongeait la cathédrale vers le boulevard actuel.
Voilà, qui desservait finalement un peu toute cette vie. Et donc, là, l'évêque a fait construire un somptueux évêché qui est aujourd'hui la préfecture.
La préfecture.
Et effectivement, il y avait une certaine distorsion entre la splendeur de la demeure de l'évêque, et la pauvreté de la demeure de Dieu.
Voilà, oui, c'est ça. D'autant qu'elle se délabrait beaucoup.
Voilà. Et la Révolution, ben, finalement, a été
une occasion
jusqu'au bout. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'on a progressivement abandonné Saint-Étienne pour des raisons de sécurité. Pendant un temps, c'est l'église des Jacobins qui a servi un peu de remplacement,
transition,
de transition.
Oui.
Et puis ensuite, après la Révolution, eh bien c'est l'église collégiale Saint-Caprais qui est devenue la cathédrale. Hein. Et donc c'est pour ça que quand on parle du chapitre cathédrale, on parle du chapitre de Saint-Étienne et du chapitre qui entourait la cathédrale.
Entourait la cathédrale. Je suppose qu'on trouvera une relation plus complète avec les gravures d'époque sur une prochaine revue.
Oui, probablement, extrême fin de l'année 2023.
Eh bien, rendez-vous, c'est déjà pris. Ouais. Alors, maintenant, sur ce sujet que nous avons longuement abordé sur le chapitre, il nous reste, un troisième point, mais avant, on va continuer à écouter un peu de musique d'Alcan, le festin d'Ésope, pour prendre une petite récréation musicale. Thank you. Vous écoutez sur Radio Bulle 93.6 les chroniques de l'Académie d'Agen, rendez-vous mensuel de l'Académie. Pierre Simon, notre secrétaire général, vous avez la parole sur un troisième sujet et qui n'est pas des moindres. C'est un sujet nouveau, le travail sur l'habitat d'Agen avec l'Université de Bordeaux et son prolongement, ce qui est intéressant.
Alors, d'abord, à ne pas confondre ce travail sur l'habitat d'Agen qui veut couvrir en gros du 12e jusqu'aux premières moitiés du 19e siècle avec notre autre travail sur les rues d'Agen, voilà. Hein, là qui naturellement ont une approche au contraire qui part d'aujourd'hui pour essayer de remonter un petit peu. Mais alors, à ne pas confondre, même si vous sentez bien, et y compris avec le thème de la fédération, du congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest qui parle du fait urbain, hein, que là, à l'heure actuelle, l'Académie travaille bien sur toutes ces questions d'habitat. Nous avions commencé, nous, Académie, à travailler avec Pierre Garrigou-Grandchamp, qui est un des meilleurs spécialistes français de l'habitat médiéval, sur justement l'habitat médiéval. L'avantage de Pierre Garrigou, c'est qu'en plus, il habite à proximité. Hein, et donc, on peut tout à fait facilement travailler avec lui, non seulement sur le plan de la sympathie, mais aussi sur le plan géographique. Alors, donc, nous avions fait ce travail, tout en étant conscients qu'il fallait sans doute l'inscrire dans un ensemble plus vaste. Hein, et donc, nous avions relié ce travail à l'analyse que l'on faisait de l'atlas historique d'Agen, qui est donc sorti il y a maintenant 4 ans.
Hein, oui, toujours d'actualité.
Et qui est toujours d'actualité, qui est, je le rappelle, un magnifique ouvrage, extrêmement complet, et j'oserais dire, pour un prix très abordable, vu le volume du
document. Et les illustrations, les plans et les annexes.
La beauté formelle.
Oui, oui. D'ailleurs, on ne peut recommander, à l'occasion de cette presque fin d'année, si vous avez un cadeau à faire, eh bien, c'est l'occasion de réserver ce cadeau à offrir à vos amis, parce que dans toute bibliothèque d'Agen, il doit y avoir ces deux volumes qui sont vraiment tout à fait intéressants et très faciles, parce qu'on peut les prendre dans différentes entrées, en quelque sorte, par époque, par lieu. C'est passionnant. Hein. Ouais. Donc on continue dans cette idée-là, en quelque sorte.
Oui, tout à fait, et y compris sur un constat, c'est qu'il y avait très peu de choses, pour ne pas dire rien, sur l'habitat civil. Et donc, on s'est préoccupé donc, de voir comment le compléter. Pour ça, dans notre souci de continuité, on a discuté avec Ausonius et en particulier sa directrice adjointe, Sandrine Lavaux, pour voir comment on pourrait continuer ce travail, enrichir le travail de l'Atlas. Et finalement, on s'est mis d'accord sur une procédure administrative qui s'appelle un PCR. C'est un projet projet collectif de recherche.
De recherche, hein.
Voilà. Et donc, on a fait ce projet entre l'Académie et l'Université de Bordeaux-Montaigne par le laboratoire Ausonius, mais en contactant aussi les autres partenaires locaux, tout naturellement, bien évidemment, la ville, la municipalité, également aussi l'UDAP, l'unité départementale d'architecture et du patrimoine, mais aussi, et oserais-je dire surtout, la DRAC, hein, la Direction régionale des affaires culturelles, qui a un service régional de l'archéologie, que le PCR est une procédure de la DRAC, et le service régional de l'inventaire, hein, qui dépend du conseil régional. Donc voilà, avec tous ces partenaires, on a travaillé surtout sur l'année 2021 à définir le projet, à rassembler tout ce qui existait déjà. Et en milieu du printemps, on a eu le plaisir de savoir que notre projet était retenu dans le cadre donc, des procédures de PCR. Et la mairie d'Agen eh bien, a bien voulu nous confirmer qu'elle était aussi toute prête à nous accompagner. Donc on en est au fait aujourd'hui.
Le dossier est bouclé.
Le dossier administratif est bouclé et on peut s'appuyer sur tous les travaux des uns et des autres,
ouais.
Ceux de l'Atlas, ceux de notre travail sur l'habitat médiéval, ceux qui vont tourner autour de la rénovation du musée, parce que c'est aussi un élément
important.
Tout à fait important. Hein. Je rappelle que le musée était composé, allez, on va dire au moins et principalement, de trois hôtels particuliers. Hein, donc, on peut aussi regarder le musée. On peut aussi regarder les composantes du musée pour savoir ce qu'il en était de l'habitat. Et on va essayer de vraiment repérer, alors en particulier pour cette année, on s'est fixé sur les maisons à pans de bois, c'est-à-dire les maisons hein, qui ont été construites avec du bois et du torchis
en colombage. Hein.
Alors on en voit un certain nombre. Mais il y en a un certain nombre aussi dont tout l'aspect extérieur a été complètement changé par du crépi.
Voilà. Hein,
et donc, alors, je ne dis pas qu'il faut décrépir toutes les maisons, mais au moins, on a aujourd'hui des techniques hein, qui permettent de voir à travers le crépi hein, ce qu'il y a en dessous. Donc là, on a un travail qui doit s'étendre, enfin, s'étaler sur 3 ans, mais qui sera marqué en fin de cette année 2022, par une conférence en décembre de Pierre Garrigou-Grandchamp sur les maisons à pans de bois, et ce qui nous permettra, là encore, de marquer d'une pierre blanche hein, notre cheminement, notre démarche. Et donc, on veille toujours à publier au fur et à mesure un certain nombre d'éléments, hein, de façon à ce qu'il reste quelque chose de facilement accessible à cette démarche scientifique qui, des fois, c'est vrai, a des approches un petit peu techniques. Mais on veillera à ce que l'ensemble de la population d'Agen soit bien informée de façon à ce qu'elle soit, un, solidaire des travaux et, deux, ensuite, fière du patrimoine qui existe dans cette belle ville d'Agen.
Eh bien, écoutez, rendez-vous à la conférence de décembre sur ces maisons anciennes, en quelque sorte, de la ville agenaise. Rendez-vous le plus tôt possible pour la journée culturelle, le 24 septembre. Rappelons qu'il faut s'inscrire à cette occasion-là pour aller au Mas d'Agenais. Les journées du patrimoine le 17 samedi après-midi, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et puis, on a rendez-vous au mois d'octobre, donc, pour
le congrès de la Fédération historique.
Voilà. Eh bien, Pierre Simon, en vous remerciant et à très bientôt, on voit qu'il y a de l'ouvrage. Et c'est bien que l'histoire vivante puisse, j'allais dire, s'exprimer par votre voix au travers de celle de l'Académie à la radio. Ben, à bientôt. Au revoir et merci à tous.
Merci à tous. Au revoir.
Pour cette nouvelle saison, rendez-vous chaque premier lundi du mois à 20h. Et donc, le prochain rendez-vous, compte tenu de ce nouvel agenda, ben, c'est le rendez-vous du lundi 3 octobre à 20h pour écouter les chroniques de l'Académie. Eh bien, ce sera chaque lundi du début du mois, à chaque mois, jusqu'aux prochaines vacances. À bientôt, merci.